Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Pendant ces quatre semaines de l'Avent, nous vous proposons de découvrir ou d'approfondir ce que disent les prophètes qui accompagnent ce temps de préparation à Noël. Cette semaine, Jean-Baptiste, appelé le prophète de l'Avent, nous accompagne. Jean-Baptiste est le prophète par excellence de l'Avent. À quoi nous invite-t-il? Que nous fait-il découvrir du visage de Jésus? Comment nous fait-il cheminer pour accueillir l'Emmanuel à Noël? Nous en parlons avec le père Cyprien Comte, prêtre du diocèse de Toulouse. Bonjour père.
Bonjour Isabelle, bonjour à tous.
Vous enseignez les prophètes bibliques à l'Institut catholique de Toulouse et vous êtes responsable de la formation au diaconat permanent. Merci d'être avec nous ce matin. La tradition catholique indique que Jean-Baptiste est le dernier des prophètes. Qui sont ceux qui le précèdent?
On connaît Isaïe, on connaît Jérémie, Ézéchiel, et puis ce qu'on appelle les prophètes de l'Ancien Testament, ceux qui sont dans la Bible juive aussi, et qu'on entend dans les synagogues si on rentre pendant les offices. Et donc les prophètes sont traditionnellement ceux qui annoncent le Christ, et ils le sont vraiment, même s'ils disent aussi bien d'autres choses. Et on a l'habitude de dire que Jean-Baptiste est en quelque sorte une charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est un homme du Nouveau Testament, mais il arrive tout au début, et en quelque sorte, il nous permet de faire la transition, le lien entre ces deux époques, en annonçant Jésus.
Vous dites, Père Cyprien Comte, que Jean-Baptiste est une charnière, ça veut dire qu'en fait, on parle déjà de lui dans l'Ancien Testament?
Alors, on ne parle pas de lui en disant Jean-Baptiste, ouais. Parce que les textes de l'Ancien Testament sont fixés un certain temps avant que Jean-Baptiste arrive, mais par contre il y a des prophéties qui annoncent la venue de Jean-Baptiste, on va y venir dans un instant.
Alors pour bien comprendre et pour bien nous accompagner, en fait nous allons tout simplement lire pendant cette émission deux passages de l'évangile de Luc, évangile qui sera écouté et médité pendant les messes de ce temps de l'Avent. Extrait que nous vous proposons, c'est donc l'évangile de Luc, le chapitre 3 au verset 15 à 18, qui va nous dire en fait ce que dit l'écriture de Jean-Baptiste et puis comment Jean-Baptiste va se présenter. Donc je vous propose de vous lire ce petit passage. « Or le peuple était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. » Jean s'adressa alors à tous, « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Voilà ce premier passage de l'évangile de Luc. Versets 15 à 18, qu'est-ce que nous dit Jean-Baptiste de lui-même d'abord, et puis après, on va voir ce qu'il nous dit de Jésus.
C'est intéressant de noter ce que Jean-Baptiste dit qu'il n'est pas, parce que les gens, gens croyaient, pour un certain nombre, tous, dit l'Évangile, qu'il était le Messie. Alors c'est assez impressionnant de voir Jean, qu'on appellera le Baptiste, et qui dit effectivement, moi je baptise dans l'eau. Et Jean-Baptiste, puisque nous l'appelons Jean le Baptiste, pour préciser, mais l'Évangile l'appelle Jean, Yohanan, Dieu fait grâce, Jean, donc, se présente entièrement en relation avec Jésus. Et il dit qu'il est inférieur à Jésus, en fait. Il vient avant lui, on l'appelle souvent le précurseur, celui qui court devant, en quelque sorte, et il dit bien que lui baptise dans l'eau, mais que Jésus, qui vient après lui, baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Je crois que c'est la première chose à bien retenir pour la figure de Jean-Baptiste. Non seulement il prépare la venue de Jésus, nous allons y revenir, mais aussi il se situe en dépendance complète vis-à-vis de celui qui est son cousin, n'est-ce pas? Puisqu'on se souvient que Élisabeth, la mère de Jean, et la cousine de Marie, la mère de Jésus.
Et ça rappelle effectivement cette visitation où Marie est venue rendre visite à sa cousine Élisabeth, et à ce moment-là, Jean-Baptiste a tressailli dans le sein d'Élisabeth.
C'est extraordinaire cette scène qui touche beaucoup tous ceux qui vivent la vie familiale et aussi les femmes enceintes, je pense, aiment beaucoup voir la visitation. En effet, Saint Luc a composé son évangile avec beaucoup de soin, et cette scène de la visitation qui est au chapitre 1 de Saint Luc, peut-être c'est une invitation pour les auditeurs à relire le début de l'évangile de Saint Luc s'ils le souhaitent. Ce moment de la rencontre des deux femmes et où les enfants, en quelque sorte, se saluent aussi, et c'est un moment de joie, un moment rempli de la présence de l'Esprit Saint, c'est aussi le moment où se rejoignent deux fils narratifs que Luc tisse ensemble. En effet, les chapitres 1 et 2 de l'Évangile selon Saint Luc racontent l'histoire de Jean et l'histoire de Jésus en parallèle, ou plutôt leur préhistoire, enfin jusqu'à leur naissance et le don du nom. Et dans cette scène de la visitation, eh bien, on a les deux qui sont ensemble. Alors c'est très impressionnant, et y compris si on veut lire les deux histoires. D'ailleurs, ça continuera jusqu'à la mort de Jean, qui est mentionné dans l'Évangile.
Oui, c'est vrai. Alors, vous dites que Père Cyprien compte que donc Jean-Baptiste parle tout de suite de sa relation avec Jésus. Il annonce la venue du Messie.
Mmh. Il l'annonce, il le désigne, il le baptise, il s'efface devant lui. Vous avez entendu, je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. C'est-à-dire, je ne suis pas digne de faire le geste de l'esclave devant lui. Alors imaginez, les gens croyaient que Jean était le Messie, et voilà qu'il s'efface devant Jésus, devant celui qu'il a été envoyé annoncer.
Oui. Est-ce qu'on peut dire que Jean-Baptiste a cette posture d'un serviteur, un peu comme on verra avec Jésus plus tard ?
Il y a quelque chose de cela, dans la mesure où tout ce qu'est Jean, et c'est comme cela que l'Évangile nous le présente, est écrit en fonction de ce qu'est et de ce que sera Jésus. Tout ce que fait Jean, tout ce que dit Jean, est décrit en fonction de ce que dit et de ce que fera Jésus. Remarquez, on pourrait peut-être sauter à un autre évangile, en fait, l'Évangile selon Saint Jean, qui présente les choses de manière un peu différente, mais ça nous permet de prendre un petit peu de recul. Vous voyez, dans Saint Luc et dans Saint Matthieu et Saint Marc, les évangiles qu'on appelle les synoptiques, Jean est présenté comme le précurseur de Jésus. Nous pouvons dire qu'il n'est pas digne d'être son serviteur. Et dans l'évangile selon Saint Jean, la dimension qui apparaît le plus clairement, c'est celle de témoin. Témoin. Alors on a peut-être en tête les mots du prologue de Saint Jean, cet homme, Jean, n'était pas la lumière. Là on parle de Jean l'évangéliste, Jean le Baptiste, dans le texte de Jean l'évangéliste, précisons.
Dans le prologue.
Voilà, dans le prologue. Mmh. Cet homme, donc Jean le Baptiste, n'était pas la lumière, mais il était venu pour rendre témoignage à la lumière. J'aime beaucoup ce que dit Saint Augustin en expliquant cet évangile selon Saint Jean. Donc Saint Augustin, on est un petit peu plus loin dans la haute antiquité chrétienne, où il explique que Jean est l'ami de l'époux. Alors là, ce n'est pas du tout original, parce que c'est ce que dit l'évangile selon Saint Jean. Mais il précise, en fait, Jean était la voix et le Christ est la parole. Jean était la lampe et le Christ est la lumière. Et je trouve que cette présentation de l'un par rapport à l'autre est très, très juste, très salutaire, et nous évite la méprise que beaucoup de gens ont commise à l'époque de Jean-Baptiste, en se disant, mais cet homme qui vit au désert, qui est un prophète, qui prêche la conversion, qui est extraordinaire, alors n'est-il pas le Messie ? Eh bien voilà, Jean n'est que la lampe, Jésus est la lumière, Jean est la voix et Jésus est la parole. Saint Augustin dit cela admirablement à la suite de l'évangéliste Saint Jean.
Comment, dans l'autre sens, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment Jésus présente Jean-Baptiste à l'inverse ?
Oui, c'est intéressant de voir aussi comment Jésus présente Jean, parce que Jésus ne se contente pas d'occuper la place qui lui revient. Il est le il est le Messie, même si cela n'apparaît que progressivement dans l'Évangile, et même les disciples auront un petit peu de mal à s'en rendre compte. Et puis, plus tard, la foi de l'Église précisera encore l'identité de Jésus. Mais Jésus, lui, dit de Jean qu'il est le plus grand des enfants des hommes, le plus grand des enfants nés d'une femme.
Ouais.
Alors, c'est une façon de rendre hommage à son cousin, à celui qui a accompli jusqu'au bout le ministère que Dieu lui a confié. Et on sait bien que Jean, en prison, puis décapité pour avoir rendu témoignage à la justice, c'est aussi pour Jésus un exemple. Les historiens, d'ailleurs, sont assez partagés, mais beaucoup estiment que Jésus a pu être en quelque sorte un disciple de Jean le Baptiste à un moment. Alors que Jésus puisse dire tout le bien qu'il pense de Jean Baptiste, finalement, ça n'est en aucune façon étonnant. Mais il rend hommage à celui qui n'est pas seulement son parent, mais celui qui a peut-être, autant qu'il était possible, tenu compte des écritures du peuple juif et qui a parfaitement préparé le chemin en prêchant aussi, on y reviendra, le royaume de Dieu, en prêchant la conversion avec des mots, il faut bien le dire, parfois durs, parfois violents. On lit quelquefois Jean-Baptiste pendant le carême aussi, parce qu'il est question de couper, ou plutôt de constater que la cognée est à la racine des arbres. C'est-à-dire que ça n'est plus le moment de se contenter de peu de choses, ça n'est plus le moment de se complaire dans la médiocrité, mais Jean prêche en disant que on doit maintenant, pour le dire autrement, déraciner les vices de notre vie pour faire une vraie place au royaume de Dieu. Et je crois que Jésus est admiratif de cela, comme il pourra l'être de quelques juifs et d'un certain nombre de païens tout au long de l'Évangile.
Alors, si vous voulez bien, nous allons parler de cet appel à la conversion après la pause musicale, mais je voudrais quand même vous poser la question du baptême. Jean-Baptiste baptise dans l'eau, Jean le Baptiste baptise dans l'eau, et il va baptiser Jésus. Qu'est-ce que ça dit du baptême et de ce lien encore avec entre Jean-Baptiste et Jésus?
Évidemment, Jean-Baptiste ne peut pas baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, ça serait tout à fait anachronique. Et d'ailleurs, on trouve cet ordre très clair dans la finale de l'évangile de saint Matthieu, quand Jésus, ressuscité au moment de l'ascension, envoie ses disciples annoncer l'évangile à toutes les nations, les instruire et les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais pour l'instant, évidemment, ce n'est pas le cas. Jean donne un baptême de conversion, un rite de purification. Il est inutile de développer ici la symbolique de l'eau. Mais il semble que ça n'était pas le seul personnage qui faisait cela. On dit parfois que Jean a peut-être fréquenté la communauté de Qumran, un site archéologique bien connu, hein, désormais découvert au milieu du XXe siècle, avec notamment une bibliothèque en particulier biblique exceptionnel. Et en fait, à Qumran, au bord de la mer Morte, donc sur la rive ouest de la mer Morte, il y a un certain nombre de bains, d'après ce que l'on sait. Et sans doute que la communauté des gens qui vivaient à Qumran, qu'on identifie souvent avec les Esséniens, pratiquait des bains de purification. Oui, il n'y a qu'à regarder autour de nous, le rite est bien connu, on voit tout près de chez nous à Lourdes un certain nombre de personnes issues de l'hindouisme qui viennent pour faire des rites d'eau à Lourdes. Donc ça, c'est assez impressionnant. Et même si sans doute la signification symbolique n'est pas tout à fait la même dans toutes les civilisations du monde, on comprend bien que Jean pouvait plonger les gens, parce que baptizo en grec ça veut dire plonger, et le baptiste c'est celui qui baptise, c'est celui qui plonge les gens dans l'eau. Eh bien il a vraiment ce rôle-là de dire aux gens « Repentez-vous de vos péchés, convertissez-vous, faites de la place pour le royaume de Dieu qui est tout proche. » Et il en profite pour annoncer celui qui est en personne le royaume de Dieu et qu'il va baptiser d'une manière tout à fait surprenante pour nous, puisque évidemment Jésus n'a aucun besoin d'être baptisé. Et en théologie, on dit souvent « C'est nous qui avions besoin qu'il soit baptisé. » D'ailleurs, quand Jésus vient devant Jean pour être baptisé, on s'en souvient, Jean résiste
oui.
en disant, mais enfin, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et Jésus dit, laisse faire, car il convient ainsi d'accomplir toute justice. Alors Jean le baptise, et c'est le moment d'une expérience extraordinaire, soit que les gens, les témoins, ont pu constater, soit que Jésus seul a vécu. En fait, les évangiles racontent l'événement de manière un petit peu différente. Quel est cet événement? Donc, quand Jésus remonte de l'eau du baptême dans le Jourdain, eh bien, les cieux s'ouvrent, l'Esprit Saint descend sur Jésus comme une colombe et la voix du Père se fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le.
Ça, c'est une belle parole à garder pour ce temps de l'Avent.
Oui, gardons cela. C'est une invitation à écouter la parole de Dieu. Et d'ailleurs, le temps de l'Avent se débouche sur le temps de Noël, qui lui-même se termine avec la fête du baptême du Seigneur.
Oui, c'est vrai. Oui, oui. Peut-être un mot encore sur cette expérience du désert que partage aussi Jean-Baptiste et Jésus, puisque Jean-Baptiste, on le lit dans l'Évangile, il va au désert pour baptiser. Et puis Jésus, on le sait, au début de sa vie publique, il passe 40 jours au désert.
Le fait que Jean aille au désert dit le côté ascétique de sa vie, sans doute. Certainement aussi, cela met en valeur l'importance de sa renommée, puisque les gens venaient de toutes parts pour se faire baptiser par lui. Alors, c'est quand même pas si fréquent, n'est-ce pas, que les gens se réunissent en nombre dans le désert. Voilà, il faut qu'il y ait une bonne raison pour cela. Et là, on voit bien la puissance d'attraction de celui qui est envoyé par Dieu et qui prêche la conversion, ce qui, en soi, aurait pu ne pas attirer tout le monde. Mais voilà, les gens, dans ce tournant au début du 1er siècle, cette époque de bouillonnement, de ferveur apocalyptique aussi, les gens sentaient qu'il fallait changer de vie et qu'on était au seuil d'un changement d'époque, même si tout le monde ne voyait pas exactement ce qui allait se passer. Mais beaucoup attendaient le Messie avec une ferveur incroyable qui d'ailleurs peut nous porter. Et donc Jean est au désert. On ne sait pas exactement si, comme nous aimons contempler quelquefois, surtout ceux qui vivent en ville peut-être, hein, quelquefois on aime contempler des étendues désertes, alors on va sur les plateaux du Larzac, ou bien on a la chance d'aller jusqu'au Sahara et vivre l'expérience du père de Foucault. En tout cas, on cherche à contempler, à laisser le temps au temps, à laisser la place à l'immensité de Dieu. Possible. Est-ce que Jean a vécu cela? Ça n'est pas détaillé. En effet, on voit par contre Jésus emboîter le pas à Jean. Alors par exemple, au chapitre 4 de Saint Luc, hein, on voit Jésus rempli d'Esprit Saint qui revient du Jourdain, nous venons d'en parler, hein, du Jourdain, et il était dans le désert conduit par l'Esprit pendant 40 jours, tenté par le diable. Alors là, on a l'impression d'être amené au temps du carême, alors que nous commençons l'Avent, n'est-ce pas? Mais en effet, il y a bien quelque chose de cela. Le désert, c'est un endroit où on ne peut pas tricher, en fait. On est renvoyé à soi-même. Et pour nous qui réalisons un petit peu au moins la présence de Dieu, nous rendons compte que c'est aussi un lieu d'épreuve, un lieu de combat spirituel, et pourquoi pas un lieu où l'Esprit Saint nous assiste pour combattre les tentations. Alors peut-être que Jean a vécu cela, en tout cas c'est très clair pour Jésus, qui en effet, là encore, se met à la suite de Jean, et c'est encore un point commun entre les deux membres de cette même famille.
Père Cyprien Comte, je vous propose de nous arrêter quelques instants. Nous écoutons l'hymne à Saint Jean-Baptiste de Guido d'Arezzo, interprété par le chœur des moines du monastère de Silos.
Amen.
Vivante Église, Isabelle Duché.
Jean-Baptiste, le prophète par excellence de l'Avent, qui est-il? Quel chemin nous indique-t-il pour nous conduire au Christ? Nous sommes avec le père Cyprien Comte, enseignant des prophètes bibliques à l'Institut catholique de Toulouse. Vous nous avez expliqué, père Cyprien, comment Jean-Baptiste se présente lui-même, comment Jésus le présente, et puis quels sont les points communs entre Jean-Baptiste et son cousin Jésus. Et puis maintenant, nous allons voir cet appel à la conversion que Jean-Baptiste nous donne, et nous prenons pour cela l'évangile toujours de Saint Luc, toujours au chapitre 3, et nous commençons à la fin du verset 2. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Voilà l'appel à la conversion de Jean-Baptiste. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, père Cyprien?
Eh bien, peut-être que ça ne nous réjouit pas, a priori.
Oui, c'est vrai, c'est rude.
Quand on dit « convertissez-vous ». Alors ici, il n'y a pas écrit « convertissez-vous, sinon vous périrez tous ». Mais enfin, quand même, chez les prophètes, on trouve quand même assez régulièrement ce genre de choses. Et je dois dire que Jean, fils de Zacharie, Jean le Baptiste, n'est pas en reste. Alors de quoi s'agit-il en fait? Les gens ont l'air de très bien comprendre ce que leur dit ce prophète qu'ils sont allés voir au désert. D'ailleurs, ils viennent pour se faire baptiser et pas seulement pour écouter sa prédication. Si jamais les auditeurs veulent relire la suite, on est dans Luc chapitre 3. Il y a ensuite des insultes que Jean adresse aux foules qui viennent pour se faire baptiser. Alors je passe pour ne pas trop vous choquer. Mais en fait, à partir du verset 10, vous voyez, donc Luc 3, 10, on a la réponse de Jean à la question des foules, que devons-nous faire? Et là, il leur dit comment on doit faire pour vivre selon la justice. Partager ses vêtements, sa nourriture, et puis pour ceux qui sont collecteurs d'impôts ou soldats, ne rien exiger de plus que ce qui leur est attribué. Justement. Et pour les soldats, il dit, tiens donc, ne faites ni violence ni tort à personne. Vous voyez, donc, on sent bien qu'il y a une dimension de justice sociale qu'il est toujours bon de rappeler. Voilà, donc c'est une conversion qui est pratique, qui est concrète, qui touche la vie quotidienne de chacun, la manière de se conduire. Mais en fait, la conversion, ça n'est pas seulement cela, et ça n'est pas d'abord cela. En effet, qu'est-ce que c'est que se convertir ? Métanoéo, le verbe grec qui a donné la métanoïa. Peut-être que quelques auditeurs sont familiers de ce mot qu'on traduit souvent par conversion et qui signifie en fait une sorte de retournement intérieur. La racine métanoéo, métanoïa, traduit de manière plus ou moins exacte l'hébreu shuv pour le verbe et teshuva pour le substantif. Shuv, c'est revenir, c'est changer de direction. Alors on entend souvent cela, et c'est bien ce que prêche Jean le Baptiste. Repentez-vous. Comment est-ce dit dans l'évangile que nous avons entendu ? Il proclamait un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Il s'agit donc de changer de chemin quand on a pris un mauvais chemin, et nous avons eu quelques exemples concrets dans la suite. Il s'agit de revenir vers Dieu, un peu comme dans Saint Luc, un petit peu plus loin, au chapitre 15, le fils qui était perdu et qui va revenir vers son père.
Oui.
C'est un mouvement intérieur, c'est un mouvement géographique et qui est le début d'un changement de conduite.
C'est ça, il y a vraiment une prise de conscience qu'on s'est trompé de chemin finalement. Et c'est ça ce temps de l'Avent, parce qu'on pourrait se dire, bon, la conversion, l'appel à la conversion, on en parle beaucoup pendant le carême. Et quelle est pour autant cette différence entre ces deux temps, puisqu'il y a quand même, voilà, il faut changer.
La conversion est encore plus mise en exergue pendant le temps du carême, vous avez raison. La spécificité du temps de l'Avent, c'est l'annonce de celui qui vient. C'est la préparation de la venue de Jésus. Et c'est pourquoi nous lisons spécialement pendant le temps de l'Avent, et nous sommes gâtés en cette année 2024, parce que nous lisons Saint Luc. Et justement, eh bien, la figure de Jean-Baptiste non seulement dit « convertissez-vous », mais dit « convertissez-vous ». Repentez-vous de vos péchés, soyez baptisés et accueillez celui qui vient et dont je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. C'est-à-dire que Jean-Baptiste nous est vraiment présenté, notamment chez saint Luc, comme celui qui vient avant Jésus et qui, Isaïe le disait, et Jean, fils de Zacharie, Jean le Baptiste le répète dans le désert, il s'agit de préparer le chemin du Seigneur. Est-ce que vous voulez que nous regardions dans Isaïe, parce que c'est assez éclairant de voir à quel moment cet oracle arrive.
Mm-hmm.
En fait, nous sommes au début du chapitre 40 du livre d'Isaïe, et les auditeurs les plus savants se souviennent peut-être que c'est le début de la deuxième partie du livre d'Isaïe. En fait, jusqu'au chapitre 39... On est au 8e siècle avant Jésus-Christ, je parle bien du livre d'Isaïe, n'est-ce pas ? Et le prophète Isaïe lui-même apparaît dans le texte. Mais à partir du chapitre 40, on passe vraiment à autre chose. Et les exégètes nous disent que ces textes ont sans doute 150 ou 200 ans au moins de retard par rapport au chapitre 39. Pourquoi je vous dis cela ? Parce qu'en fait, le chapitre 40 d'Isaïe commence par « consoler ». Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Et c'est justement, nous avons entendu à l'instant un très beau chant grégorien, une hymne à Jean-Baptiste, le précurseur. En fait, consolez mon peuple, c'est une antienne grégorienne qui est prise dans la liturgie pour le temps de l'Avent, justement. Et donc, il est très intéressant de voir que la proclamation que fait Jean-Baptiste, qui commence en Isaïe 40, verset 3, « Une voix proclame, dans le désert, dégagez un chemin pour le Seigneur », etc. Le texte que nous avons entendu, et cela vient juste après cette invitation divine, cette invitation du prophète à consoler le peuple de Dieu, rassurer Jérusalem, qui a été, dit le texte d'Isaïe, suffisamment puni comme ça, mais c'est maintenant le moment de la consolation, et c'est d'ailleurs... selon la formulation traditionnelle, l'appellation que l'on donne à cette partie du livre d'Isaïe, on est au début du livre de la consolation, Isaïe 40 jusqu'à 55 et peut-être même un petit peu plus. Et donc, c'est dans ce contexte que la voix qui crie dans le désert et qui est celle annoncé à l'avance par Isaïe de Jean-Baptiste, peut se faire entendre. Il s'agit certes d'une invitation à la conversion, mais parce que celui qui vient, Jésus, est là pour donner le salut, pour réconforter, pour consoler, alors ce temps de l'Avent n'est pas placé d'abord sous le signe de la pénitence, mais plutôt d'une conversion et d'un accueil joyeux de celui qui apporte le renouvellement de toute chose.
Oui. Il y a aussi pendant ce temps de l'Avent cette dimension d'attente. À quoi s'apparente l'attente de Jean-Baptiste pour nous ?
L'attente de Jean-Baptiste, alors nous terminons l'année 2024 qui est consacrée dans l'Église catholique à la prière. Et nous allons commencer dans quelques semaines ce temps du jubilé autour du thème « Pèlerin d'espérance ». Alors, en fait, le temps de l'Avent est aussi un bon temps pour nous préparer à ce jubilé.
Oui, bien sûr. Oui.
Avec cette dimension de la patience nécessaire et aussi de la préparation. En fait, Dieu vient, que nous le voulions ou non. Le Seigneur Jésus est venu dans la chair, il viendra dans la gloire et nous nous y préparons. C'est le sens de l'Avent. Et c'est une invitation à prendre au sérieux le mystère de Dieu qui nous est offert et où nous pouvons jouer notre part très humblement. Peut-être que nous allons être un petit peu comme Jean-Baptiste, annoncer la venue du Seigneur, mais certainement que nous sommes les destinataires de cette annonce consolante. Il vient, le Seigneur, et toute chair verra sa puissance. Et du coup, l'invitation à préparer le chemin du Seigneur, des façons dont Jean-Baptiste l'a dit en reprenant Isaïe chapitre 40, eh bien, c'est vraiment la part que nous pouvons jouer dans venue du règne de Dieu. Nous tenir disponibles, accepter un certain dépouillement comme au désert, pour que celui qui vient trouve un chemin préparé. Et là aussi, nous touchons à la mission des chrétiens qui ne sont pas seulement des disciples, mais qui sont aussi des envoyés de Dieu, des missionnaires, n'est-ce pas ? Et nous avons à aider ce monde à se préparer à la venue du Sauveur. Et je pense aux auditeurs ici, c'est quand même, que ce soit en famille, et parfois c'est difficile avec les jeunes générations, mais c'est quand même notre rôle si nous sommes... comme parmi les destinataires de l'annonce de Jean-Baptiste, comme ceux qui demain vont entendre l'annonce du règne de Dieu par Jésus et qui se mettront à sa suite, et pas seulement à celle de Jean. Nous avons à annoncer cette nouvelle, que tout est renouvelé, que l'amour de Dieu vient nous consoler. Nous pouvons le dire à notre famille, nous pouvons le dire à tous ceux que nous rencontrons, par notre manière de vivre, et souvent aussi par nos paroles, parce qu'il faut bien expliquer un petit peu pourquoi nous vivons comme cela dans une joyeuse attente. Comme Jean le Baptiste, vous voyez, l'ami de l'époux est heureux, il se réjouit à la voix de l'époux qui vient.
Oui. Y a aussi ces... Je voulais vous faire réagir sur ces mots d'un moine bénédictin de l'abbaye de Trior. Il dit « L'Avent est un temps de grâce pour enlever tous nos masques et essayer de retrouver la simplicité de notre innocence baptismale. Allons humblement jeter notre pauvre misère au confessionnal sans nous croire autosuffisants en confessant tous nos péchés, surtout ceux que nous serions le plus tentés de tenir cachés. » Il y a aussi peut-être cet appel à tout remettre, à tout déposer dans la miséricorde de Dieu.
Vraiment, la consolation que Dieu nous apporte avec la promesse et la venue de Jésus, elle est sans condition, mais nous savons que pour l'accueillir, eh bien, il faut combler les abîmes de notre péché et parfois même ces crevasses qu'on aimerait bien juste cacher, alors qu'en fait, c'est très dangereux de se contenter de cela. Le Seigneur vient combler tout ce qui est dangereux pour nous et pour les autres dans notre vie, et aussi abaisser les montagnes de notre orgueil. En effet, je crois que le sacrement du pardon, qui est souvent bien mis à l'honneur pendant le temps du carême, est aussi un beau moyen. Il y a des paroisses, vous savez, y compris dans notre ville de Toulouse, qui proposent chaque dimanche, un temps spécifique de préparation dans la prière, avec la possibilité aussi de rencontrer un prêtre, pourquoi pas de recevoir le sacrement du pardon. Je crois que c'est aussi une belle façon de se préparer à Noël. Traditionnellement, d'ailleurs, dans la vie chrétienne, on invite à profiter des grandes fêtes pour recevoir le sacrement du pardon et de la réconciliation. Je crois que c'est une belle façon de commencer ce temps de l'Avent avec Saint Jean-Baptiste et d'entendre son appel à la conversion, de dire bah, effectivement... Allons rencontrer un prêtre, si nous le pouvons, et souvent c'est possible quand même dans notre région. Donc essayons de préparer cette rencontre, si ce n'est pas si évident, et si peut-être dans notre paroisse, il n'y a pas des confessions avant la messe du dimanche, ce n'est pas toujours si facile, mais peut-être qu'on peut demander un rendez-vous, qui sait. Voilà, ça me paraît très très sain, effectivement.
Oui. Oui. Allez, peut-être pour conclure, Père Cyprien Comte, cette émission, cette première émission de ce temps de l'Avent sur les prophètes, comment pouvons-nous, voilà, c'est le début, là, on est peut-être un peu tout feu, tout flamme, et puis il va falloir tenir encore pendant 4 semaines. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire ?
La personnalité de Jean-Baptiste nous permet d'entendre quelques conseils, quelques recommandations pour que nous aussi puissions... vivre joyeusement ce temps d'attente et activement. Déjà, on va chanter avec toute l'Église, préparer le chemin du Seigneur. Ben Jean-Baptiste disait cela après Isaïe. Donc nous situons dans la continuité de cette grande tradition. Et puis, regardons Jean-Baptiste qui est vraiment un homme qui prêche la conversion. Voilà une invitation pour nous. Mettons à profit ce temps de grâce pour nous convertir, pour préparer la venue du Seigneur. Et puis admirons cette personnalité de Jean-Baptiste dont Jésus fait l'éloge. C'est un homme humble devant son maître, un homme plein de joie parce qu'il annonce celui qui apporte le salut. Et puis c'est une invitation pour nous aussi à marcher sur ses traces, à mettre nos pas dans les traces de ses sandales, dans le sable du désert, puisqu'il préparait le chemin par son témoignage. Il me semble que, surtout, oui, par-dessus tout, méditer sur la figure de Jean-Baptiste en ce début d'Avent, c'est vouloir être uni au Christ dont il est le serviteur. Il me semble que voilà de bons repères pour commencer ce temps de préparation à la venue du Sauveur dans la chair.
Et puis on gardera ce mot de consolation, qui est un très beau mot aussi, qui peut nous guider pendant ce temps de l'Avent, dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Merci beaucoup, Père Cyprien Comte. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour parler d'un autre prophète, Isaïe.